Bonjour à tous. Son nom ne vous dit peut-être rien. Il s'appelle Meyer Habib et c'est pourtant un député français atypique qui joue, vous allez le voir, un rôle diplomatique assez particulier. Bonjour Frédéric Métezeau.
Bonjour à tous.
Vous êtes en duplex de Jérusalem et avec Emmanuel Elbaz Phelps de la télévision publique israélienne, vous allez nous expliquer pourquoi son positionnement surprend et parfois d'ailleurs irrite. Et puis nous recevrons Stéphane Jourdain. Bonjour également.
Bonjour.
Alors vous publiez une enquête sous forme de BD sur un sujet tabou. Vous avez essayé de comprendre pourquoi on n'a jamais fabriqué de pilules contraceptives pour hommes.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Le président français improvise une promenade, une visite des lieux saints de Jérusalem.
Alors,
en arrivant devant l'église Sainte-Anne, un territoire français depuis le 19e siècle dans la vieille ville, les policiers israéliens qui l'accompagnent tentent d'y pénétrer.
Hey, please, everybody knows the rules. I don't like what you did in front of me.
Voilà un extrait d'un reportage de France 2 diffusé le 22 janvier 2020. Emmanuel Macron reproche aux services de sécurité israéliens de vouloir pénétrer dans l'église Sainte-Anne. Alors on se souvient que cette séquence a été vue de multiples fois. Mais ce que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que lors de cet incident, un homme parle avec le président. Un député français qui s'appelle Meyer Habib. Alors pour comprendre en quoi ça n'est pas anodin, Frédéric Métezeau, il faut peut-être tout simplement préciser qui est ce député.
Oui, alors Meyer Habib, c'est un député UDI du centre droit, donc, qui représente une circonscription immense puisqu'elle concerne les Français qui vivent en Italie, au Vatican, à Saint-Marin, à Malte, en Grèce, à Chypre, en Turquie, en Palestine et en Israël. Meyer Habib est lui-même franco-israélien. Il a été élu en 2013 et puis il a été réélu en 2017 avec 57% des voix.
Oui, si vous avez décidé de nous en parler, Frédéric, c'est, je le disais, parce qu'il a un positionnement plutôt atypique.
Oui, et pour le comprendre, on va revenir en ce 22 janvier 2020 qui a marqué les mémoires. Emmanuel Macron ne fait pas que visiter Sainte-Anne ce jour-là. Il a aussi rencontré le premier ministre israélien de l'époque, Benjamin Netanyahou. Et à la sortie de cet entretien, arrive pour la photo officielle le premier ministre, son épouse, Emmanuel Macron, l'ambassadeur de France et Meyer Habib, le député qui figurera sur la photo.
Et c'est anormal ça ?
Alors, anormal, non, mais atypique plutôt, parce que, écoutez ce qu'en dit Elisabeth Garot, c'est une figure de la communauté franco-israélienne à Jérusalem. Elle a été élue consulaire et elle est proche de la République En Marche. Elle trouve étonnant que Meyer Habib puisse assister à des entretiens au sommet.
Quand on lit ce qu'il écrit sur sa page Facebook, parfois il dit « je me suis entretenu sur la question iranienne avec Benjamin Netanyahou ». Évidemment, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Imaginez un seul instant, même au nom de l'amitié personnelle qui puisse exister entre les deux hommes, que Monsieur Benjamin Netanyahou puisse révéler des secrets qu'il ne faut pas dire à Meyer Habib, c'est extrêmement troublant.
Ah, parce que Meyer Habib connaît vraiment des secrets d'État ?
En tout cas, il me l'a laissé entendre l'après-midi même de cette rencontre. Et puis surtout, effectivement, deux jours après, sur sa page Facebook, il écrit, je cite, « À sa demande, j'ai accompagné le président Macron à la résidence du Premier ministre Netanyahou. Je ne peux entrer dans tous les détails de 90% des dossiers abordés pour des raisons de confidentialité évidentes. »
Et c'est Emmanuel Macron qui lui aurait demandé d'être présent ?
Alors, pour en être certain, nous avons posé la question à l'Élysée. C'est la cellule diplomatique compétente qui m'a répondu par mail. Nous avons fait lire cette réponse.
Je ne sais pas pourquoi et comment il était là. Il participait à la séquence d'avant, puis il a enchaîné avec la suivante. Peut-être qu'il force un peu, je ne sais pas. Le protocole est fixé en amont et parfois une personne se rajoute.
Ouais, quand on entend ça, on n'est pas vraiment plus avancé.
Non, effectivement, mais j'ai aussi posé la question à tous les députés des expatriés qui ont vu passer Emmanuel Macron dans les pays où ils sont élus. Cela fait 8 personnes réparties sur tous les continents et tous les 8 m'ont dit la même chose. Je n'ai jamais assisté à un entretien bilatéral entre Emmanuel Macron et un dirigeant étranger.
Mais alors comment se fait-il que Meyer Habib, lui, puisse le faire ?
Eh bien, renseignement pris, il participe depuis des années à des rencontres de haut niveau. C'est ce qu'a constaté un ancien diplomate israélien. Il s'appelle Daniel Sheck. Il a été ambassadeur d'Israël en France de 2006 à 2010. À l'époque, Meir Habib n'avait pas de fonction politique officielle. Et pourtant, voilà ce qui se passait, selon le diplomate.
Il y a eu plusieurs occasions où il a participé physiquement dans des rendez-vous entre Benjamin Netanyahu et les personnalités françaises. Il y a eu au moins un cas, dont je me souviens, sinon deux, où dans des entretiens entre Netanyahu et Sarkozy, Netanyahu m'a demandé de ne pas participer au rendez-vous et que Meir Habib y participait. Et ça, c'est problématique. Le Premier ministre a évidemment le droit d'inviter qui il veut, mais l'ambassadeur est normalement considéré comme le représentant officiel de l'État d'Israël en France, et s'il n'y a qu'une personne qui participe à des rendez-vous, et souvent les rendez-vous sont très très restreints, normalement ça doit être l'ambassadeur.
Ah oui, donc lui, il vous dit que c'est effectivement un fonctionnement atypique. Et ça, ça s'est passé aussi sous François Hollande ?
Oui, enfin en tout cas, il a essayé. En novembre 2013, le président de la République française se rend en Israël et dans les territoires palestiniens. Cette fois-ci, Meir Habib vient d'être élu député. Et évidemment, il est du voyage. Un ancien ministre de François Hollande, très proche de lui, nous a raconté que Meir Habib avait dit alors, je cite, « Si vous ne m'intégrez pas à la délégation française, j'irai dans la délégation israélienne », et il a demandé à assister à tous les entretiens.
Et il a pu le faire ?
Alors oui et non. Oui, il a été dans la délégation française, mais non, il n'a pas assisté aux entretiens les plus confidentiels.
Et ce que vous avez remarqué, Frédéric, c'est que finalement, il ne joue pas qu'un rôle d'observateur lors de ses déplacements.
Parfois, Meir Habib donne un coup de main à la diplomatie française. Selon le quotidien israélien Haaretz, par exemple, en août 2013, Meir Habib aurait permis à Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, de rencontrer Benjamin Netanyahou à Jérusalem, alors que le Premier ministre israélien avait d'abord refusé de le voir. L'ambassadeur de France avait demandé à Meir Habib de débloquer la situation.
Donc là, il a joué un rôle de facilitateur, mais il arrive aussi qu'il fasse barrage.
C'est vrai, début 2015, le ministre de l'économie Emmanuel Macron est en visite dans la région. À Ramallah, pas de problème, il rencontre le président palestinien sans aucune difficulté. Mais à Jérusalem, impossible de s'entretenir avec Benjamin Netanyahou, alors qu'une autre personnalité française lui a grillé la politesse. Écoutez ce que m'a raconté un bon connaisseur des milieux économiques franco-israéliens. Nous avons fait lire ses propos.
En septembre 2015, Emmanuel Macron vient à Jérusalem et il y a aussi au même moment ce grand gars sympa devenu ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui lui a eu le droit de voir Bibi. Macron était fou. Les diplomates ont été actifs sur ce dossier, en vain. Meir Habib a fait barrage à Macron chez Netanyahou et Macron lui en a beaucoup voulu.
Mais pourquoi Bruno Le Maire a pu rencontrer Benjamin Netanyahou et pas Emmanuel Macron ?
Eh bien parce que, selon nos informations, Meir Habib a déconseillé à Netanyahou de recevoir Emmanuel Macron parce qu'à ce moment-là, il était ministre du président socialiste François Hollande et ça n'était pas le camp politique du député Habib. En revanche, il a donné le feu vert à une visite de Bruno Le Maire parce que lui, député LR, était candidat à la primaire de la droite et du centre. Et là, on est dans la famille politique de Meir Habib.
Bon, mais alors là, faut expliquer, Frédéric, comment un député de l'Assemblée nationale peut avoir autant d'influence sur Benjamin Netanyahou ?
Eh bien, pour le comprendre, il faut revenir sur son parcours. Meir Habib est né à Paris en 1961. Il est ingénieur de formation. Il a milité au Bétar, qui est un mouvement sioniste de droite. Et il n'hésitait pas, dans sa jeunesse, à faire le coup de poing contre des militants d'extrême droite à Paris. D'ailleurs, une fois, en 1988, une bagarre a dégénéré. Il a alors été condamné, Meir Habib, pour coups et violences volontaires et rébellion contre les forces de l'ordre.
Et ensuite ?
Et bien ensuite, il a monté son entreprise de joaillerie à Paris. Il a longtemps été vice-président du Conseil représentatif des institutions juives de France. Et enfin, il a été élu député.
Et surtout, donc, c'est un ami de Benjamin Netanyahou.
Ah oui, un ami qui l'a toujours soutenu. Écoutez-le par exemple le 10 avril 2019, au soir des élections législatives en Israël. On est sur la chaîne israélienne I24. Netanyahou est encore Premier ministre.
Benjamin Netanyahou est mon ami bien avant qu'il soit Premier ministre. On s'est connus dans les années 90. C'est un homme d'État. J'ai passé aujourd'hui toute la journée avec lui. Il a une force en lui, quelque chose d'exceptionnel. Mon souhait, à titre personnel, c'est évidemment qu'il soit réélu. C'est un homme très fort. Regardez d'ailleurs la façon dont on essaye de le traîner dans la boue. Et ma conviction absolue, il n'est pas corrompu. C'est un homme honnête.
Et la suite, on la connaît. Benjamin Netanyahou a quitté le pouvoir et il est actuellement jugé pour corruption.
Mais alors, comment les deux hommes se sont rencontrés, Frédéric ?
Eh bien, avec Emmanuel Elbaz Phelps de la télévision publique israélienne, nous avons remonté le temps grâce à plusieurs témoins de ce compagnonnage entre lui et Benjamin Netanyahou. Notre consoeur nous raconte comment ça s'est passé.
Benjamin Netanyahou est à l'époque l'étoile montante du Likoud, qui est le parti de l'opposition, le parti de droite. Et Netanyahou vient en voyage à Paris. Un cadre de la droite israélienne de l'époque nous raconte cette rencontre. Meir Habib est actif au Likoud dans la communauté juive française, mais n'a pas de fonction officielle au sein du parti. Et il fait partie des personnes choisies ou réquisitionnées pour accueillir Netanyahou et pour en fait faire son chauffeur dans Paris. Et la rencontre se fait comme ça. Selon ce cadre de la droite israélienne de l'époque, le rapprochement entre les deux hommes se fait tout de suite, puisqu'il nous raconte que Meir Habib, après avoir passé une journée en voiture avec Netanyahou, se porte volontaire pour continuer à être son chauffeur dans Paris. Et les deux hommes, donc, ne se quittent plus pendant ce voyage.
Et cette amitié, elle va ensuite se renforcer.
Oui, selon des membres de l'entourage des Netanyahou, Meir Habib leur offrait régulièrement des cadeaux. Le journaliste d'investigation israélien de la chaîne 13, Raviv Drucker, a enquêté sur ces personnalités du monde entier qui ont choyé le couple et il affirme que Meir Habib en faisait partie.
Quand Netanyahou était un citoyen privé, après qu'il a perdu son titre de Premier ministre en 1999, il y a un témoignage apparemment sans équivoque selon lequel Habib a financé son séjour à Paris et aussi de toute la famille. Meir Habib est comme une sorte de papa gâteau des Netanyahou à Paris. Il contrôle l'emploi du temps de Netanyahou quand il vient comme Premier ministre à Paris et tous les contacts officiels de Netanyahou en France passent par lui. Quand des journalistes français veulent interviewer Netanyahou, Meir Habib vient et dit « Je te demande, Bibi, d'accorder une interview à un tel et un tel » et Netanyahou le fait.
Et vous l'entendez, cette relation va bien au-delà de l'amitié. Peu à peu, Meir Habib devient conseiller et représentant de Bibi. C'est bien plus que de simples cadeaux.
Ce que donne Netanyahou à Habib est bien plus visible. Toute personne qui a déjà été à l'ambassade d'Israël en France le sait et le voit. Habib a un statut. Il est l'homme de Netanyahou en France et c'est un statut super important. C'est-à-dire que des fonctionnaires de l'État jusqu'à l'Élysée et en passant par la communauté juive, tout le monde sait que pour pouvoir arriver jusque Netanyahou, il faut s'adresser à Meir Habib. Quand Netanyahou arrive pour des visites, Habib est évidemment à ses côtés. Habib est présent. Habib attend à côté de l'avion. Habib est présent avec l'entourage. Il est à l'hôtel.
Et cette relation hors norme, elle dure encore, poursuit Emmanuel Elbaz Phelps.
Netanyahou n'a pas d'amis. Néanmoins, on nous dit, Meir Habib est son buddy, et son pote. Meir Habib, il fait partie, on nous le raconte, des rares personnes à pouvoir lui parler les yeux dans les yeux et lui dire, Benjamin, tu te trompes sur telle ou telle décision, ce qui est très rare. Très récemment, quand Benjamin Netanyahou doit quitter la résidence du Premier ministre, on voit une photo de Benjamin Netanyahou et sa femme Sarah Netanyahou dans les cartons, proche de leur déménagement, avec Meir Habib présent entre les cartons, donc vraiment dans un moment de grande intimité.
Ouais, donc les deux hommes sont vraiment très proches, hein, on l'entend. Mais ils ne partagent pas qu'une amitié, Frédéric. Ils partagent aussi un combat politique.
Ah oui, Meir Habib est complètement en phase avec Netanyahou. Il défend les positions de la droite nationaliste israélienne. Par exemple, écoutez-le à l'Assemblée nationale en 2020, il soutient alors le projet d'annexion de la vallée du Jourdain, un territoire occupé de Cisjordanie que lui appelle Judée.
La France va encore une fois s'ériger en fer de lance d'une campagne anti-israélienne contre l'extension de la souveraineté en Judée. La Judée ne peut pas être jamais une colonie pour un juif. Notre diplomatie ne peut ignorer les vérités historiques et aussi les réalités du terrain. La souveraineté israélienne sur Jérusalem, sur le Golan et bientôt, je l'espère à titre personnel, sur la vallée du Jourdain en fait partie. L'extension de la souveraineté, elle aura lieu, monsieur le ministre, avec ou sans nous. J'ai longuement parlé vendredi dernier avec le Premier ministre Netanyahou. Il est déterminé sur ce dossier, je vous le confirme. Je l'ai dit à notre ambassadeur à Tel Aviv, Éric Danon.
Mais alors là, Frédéric, Meir Habib, il s'exprime en tant que soutien du Likoud ou comme député français ?
Eh bien, c'est toute la question. Et cette ambiguïté, parfois, elle dérange certains parlementaires français, dont ce membre de la Commission des Affaires étrangères qui n'a pas souhaité s'exprimer au micro, mais dont nous avons fait lire les propos.
Meir est incontestablement sympathique et expansif, mais c'est vraiment le porte-parole de Netanyahou qui se comportait comme tel à la Commission des Affaires étrangères. À un moment, on était en séance et des roquettes tombaient à Tel Aviv. Il nous faisait écouter le bruit des explosions en direct sur son portable. La présidente de la commission lui disait « Vous êtes français, vous connaissez notre politique ». Et il répondait « Oui, mais je suis aussi israélien ».
Et ce positionnement très particulier, il irrite aussi certains de ses compatriotes en Israël, comme l'ancienne élue consulaire Elisabeth Garot.
Il est censé nous représenter, il est député des Français de l'étranger. Mais ce qui caractérise Meir Habib, c'est le fait qu'il présente la politique officielle du Likoud comme étant la sienne et il la défend à la tribune de l'Assemblée nationale.
Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? C'est pas interdit de défendre un pays?
Non, mais ce qui est gênant, c'est que quand il y a des élections et qu'on utilise le papier en tête de l'Assemblée nationale pour appeler les Français d'Israël, qui sont aussi israéliens, pour voter pour le Likoud, là, je pense qu'on franchit une ligne rouge.
Attendez, Frédéric, là, elle fait référence à quoi ?
Eh bien là, elle fait référence à l'élection municipale à Jérusalem en 2018 dans un courrier en tête de l'Assemblée nationale envoyé de Paris en tant que député français. Meir Habib écrit effectivement aux franco-israéliens qui sont nombreux à Jérusalem qu'il soutient le candidat du Likoud.
Ouais, donc Elisabeth Garot considère que cette double casquette pose problème.
Alors on pourrait y voir bien sûr une posture politique puisqu'elle n'est pas du même bord que Meir Habib, mais Elisabeth Garot n'est pas la seule à soulever le problème. Plusieurs diplomates israéliens avec qui nous avons discuté ici nous ont expliqué que ce rôle particulier que joue le député français leur posait vraiment question. C'est le cas de l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Daniel Sheikh.
Son rôle est ambigu. Représente-t-il l'Assemblée nationale en Israël, le gouvernement israélien à l'époque en France? Est-ce qu'il fait les deux? Lui, sans doute, pense qu'il fait les deux, qu'il est une sorte de pont. Mais être un pont dans les deux sens, c'est difficile. Il faut une certaine délicatesse pour essayer de ne pas se fâcher contre un Meir Habib qui pense avoir le droit de se mêler des affaires de l'ambassade, de venir et dire « j'ai parlé au ministre des Affaires étrangères pour... voir avec lui qui on va nommer pour te remplacer », des choses de ce genre-là. Quand j'ai senti qu'il allait trop loin dans sa volonté de peser dans le fonctionnement de l'ambassade ou dans le comportement, etc., j'écoutais poliment, mais je n'acceptais pas sa volonté d'intervenir ou de prendre des décisions, vu qu'il n'avait aucune fonction officielle.
Ouais, aucune fonction officielle, mais ce rôle diplomatique, il semble qu'il en joue quand même.
Oui, et encore très récemment, je vous raconte un épisode en mai dernier. Jean-Yves Le Drian vient de parler d'un risque d'apartheid envers les Palestiniens. Les analystes du ministère des Affaires étrangères israélien préconisent une réaction mesurée. Mais Meir Habib a téléphoné à Benjamin Netanyahou pour lui demander d'être beaucoup plus ferme contre le Quai d'Orsay. Et finalement, le Premier ministre tiendra un discours très dur contre la France devant les caméras et l'ambassadeur de France à Tel Aviv sera convoqué par les diplomate israélien.
Donc effectivement, c'est une intervention qui n'est pas sans conséquences. Mais bon, même si c'était récent, ça, Frédéric, c'est fini maintenant. Il n'a plus les mêmes leviers, non ?
Oui, effectivement, puisque Netanyahou n'est plus Premier ministre depuis juin dernier et Meir Habib est de plus en plus critique contre le nouveau gouvernement israélien. Tenez par exemple, en juillet dernier, devant une délégation de députés français, il a pris à partie le nouveau Premier ministre, Naftali Bennett. Il lui a demandé « Pourquoi as-tu trahi Netanyahou ?» Un parlementaire français nous a raconté et nous a confirmé que c'était très tendu entre eux.
Bien, alors on va maintenant passer à autre chose. On va évoquer un dernier volet dans votre enquête, Frédéric. Tout député se doit de remplir une déclaration d'intérêt à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en France. Et celle de Meir Habib vous a intrigué.
Oui, parce que il déclare bien son entreprise en France, mais il n'a pas déclaré qu'il était aussi actionnaire de 3 structures israéliennes, dont une créée en 2005 avec son ami de longue date, Arnaud Mimran.
Arnaud Mimran, l'homme condamné dans l'affaire de la taxe carbone ?
C'est lui, c'est le même. Alors ça, Mediapart l'avait déjà révélé, mais nous avons identifié 2 autres sociétés dont il est actionnaire et qui ne figurent pas non plus dans sa déclaration d'intérêt. Emmanuel Elbaz-Phelps les a étudiées.
La première est une société qui s'appelle Rahananel. Rahananel a été enregistrée en 2005. Alors l'autre société, c'est une société qui s'appelle aujourd'hui Mishpachat Lilian, créée en 2014. En 2014, Meir Habib est député. En mai 2021, donc récemment, Meir Habib cède toutes ses parts et il les laisse ou il les vend, on ne sait pas, à un membre de sa famille.
Ah oui, donc entre 2014 et 2021, il possédait encore ses actions. Mais on est vraiment obligé de déclarer des actions qu'on possède à l'étranger ?
Alors évidemment, nous nous sommes posé la question et pour y répondre, nous nous sommes tournés vers un expert, Jean-Pierre Sueur, le sénateur socialiste, membre du groupe France-Israël et rapporteur en 2013 de la loi sur la transparence. Et lui, il est catégorique.
Tout parlementaire doit déclarer son patrimoine, la totalité de ses biens et ses intérêts, c'est-à-dire les différentes fonctions qu'il peut exercer à un titre ou à un autre et pour lequel il a des intérêts. Cela vaut en France comme partout dans le monde.
Quand on parle des intérêts, ça veut dire également les activités professionnelles, les placements en actions,
absolument,
les parts dans les sociétés.
Tout intérêt dans une société, dans une association, dans un organisme, qu'il soit en France ou n'importe où ailleurs.
Bon, et Meir Habib, lui, Frédéric, il en dit quoi de tout ça ?
Eh bien, vous vous en doutez, nous l'avons contacté, nous lui avons proposé de le rencontrer pour qu'il puisse répondre à toutes nos questions, mais il a refusé notre invitation malgré toutes nos relances.
Ouais, donc on n'aura pas sa version sur cette question, comme sur les autres d'ailleurs, et on le regrette. En tout cas, merci Frédéric Mettezo. Alors je précise que vous étiez en duplex de Jérusalem, et puis j'en profite pour signaler que vous publiez la semaine prochaine un livre consacré à Berthe Badéhi, une femme qui a échappé au camp de la mort et qui depuis un quart de siècle travaille au mémorial de la Shoah à Jérusalem. Dans quelques instants, on passe à tout autre chose. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de pilule contraceptive pour les hommes ? Deux journalistes ont mené l'enquête.
The garbage truck tiptoes along.
Balade à la fois enlevée et mélancolique, c'était Ray Street, extrait du dernier album de l'Australienne Courtney Barnett.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Et nous recevons maintenant Stéphane Jourdain, bonjour.
Bonjour Jacques.
Vous dirigez, on va le dire, le site web de France Inter, mais c'est pas pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Si vous êtes là, c'est parce qu'avec Guillaume Dodin et Caroline Lee, vous publiez une BD qui est intitulée Les Contraceptés. Et c'est en fait une véritable enquête sur la contraception masculine. Vous avez essayé de comprendre pourquoi, depuis la Deuxième Guerre mondiale, 13 contraceptifs féminins ont été développés, alors que les méthodes de contraception masculine, elles, ont très peu ou quasiment pas évolué. Et pourtant, quand on vous lit, on se rend compte que la publication qui évoque une possible contraception masculine, elle remonte à 1939. Donc en fait, on se posait la question il y a déjà très longtemps.
Oui, c'est-à-dire que les premiers tests qui sont faits sur une pilule pour obtenir une pilule dite féminine, dès ce moment-là, il y a des tests qui sont faits sur les hommes par un monsieur qui s'appelle Grégory Pincus. Et ces premiers tests sont probants, c'est-à-dire que dès le départ, il arrive à trouver une méthode qui semble prometteuse pour empêcher les hommes de procréer.
Quand on dit dès le départ, c'est-à-dire, c'est quand ?
C'est-à-dire qu'on est dans les années 30, les années 30-40.
Donc il y a longtemps. Pourquoi ça va pas plus loin à ce moment-là ?
Alors là, c'est très difficile de retrouver des archives de ce moment-là, donc c'est très difficile d'écrire l'histoire de ce qui s'est passé à ce moment-là. L'histoire est beaucoup plus documentée à partir des années 50-60, quand vraiment la pilule féminine est inventée. Mais bon, tout ce qui parcourt notre histoire et notre enquête, c'est que les hommes ne sont pas demandeurs d'avoir des contraceptifs, que ça arrange tout le monde, que ce soit les femmes qui endossent 100% de cette charge contraceptive, et évidemment encore plus dans les années 30-40 qu'aujourd'hui.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que on n'a pas travaillé sur une pilule pour hommes. En revanche, il y a quand même eu des choses qui ont été faites, mais sur des injections. Et c'est plutôt là-dessus que les études se sont faites. Les Chinois ont commencé à travailler dans les années 70, et puis ça s'est poursuivi plus tard.
Oui, alors ce qui est très intéressant, le moment le plus important dans notre histoire, c'est les années 90, quand l'OMS lance deux études internationales qui portent sur des centaines de couples. Ces deux études vont tester la méthode hormonale, c'est-à-dire des injections, des piqûres hebdomadaires chez les hommes de testostérone, un produit qui permet de bloquer la production de spermatozoïdes. Et que disent ces deux études ? Que cette méthode fonctionne et qu'elle est efficace à plus de 95% pour l'une des études, à plus de 96% pour l'autre. Conclusion des études, c'est aussi efficace que le stérilet. Et derrière ces deux études, c'est ça qui nous a intéressé, il ne se passe rien parce qu'il y a pas, ça n'embraye pas.
Alors aussi peut-être parce qu'une injection, c'est vrai que c'est pas très agréable.
Alors c'est le souci de fond, c'est que la testostérone qui permet de bloquer la production de spermatozoïdes, elle est ingérée par le foie, donc il faut mettre une grosse dose pour que ça passe l'étape du foie, et dans ce cas-là, elle devient toxique. C'est pour ça que certains pensent que la pilule masculine n'existera jamais. Du coup, pour contrer ce problème, il faut passer par des injections. Et donc, il faudrait convaincre des hommes de faire des piqûres, ce qui n'est pas simple.
Alors, ce qui apparaît dans votre enquête, c'est que finalement, personne ne s'approprie vraiment ce sujet-là, ni les politiques, ni les laboratoires pharmaceutiques. Et on a affaire à beaucoup de bricolage, avec des médecins qui font des études finalement tout seuls, et puis des gens qui bricolent dans leur garage, des slips chauffants, des anneaux, des choses comme ça.
Oui, c'est exactement ça. Ça reste très artisanal. Les gens qu'on a rencontrés, que ce soit le docteur Mieusset à Toulouse, ou les gens qui fabriquent leurs propres anneaux... C'est exactement ça, c'est des techniques dans des garages ou des méthodes assez artisanales qui amènent à fabriquer soi-même un slip chauffant. parce que ça n'est pas en vente sur le marché. Donc on est en 2021 et les gens qui se contraceptent parce que ça marche, parce que c'est efficace, ça fonctionne, le font avec des méthodes très artisanales.
Et sur leur propre, de leur propre initiative. Roger Mieusset, le médecin auquel vous faites allusion, il vous raconte qu'à Paris, trois hommes avaient bricolé un slip chauffant avec une résistance de voiture téléguidée.
Voilà, dans les années 60-70, des hommes décident de se prendre en charge eux-mêmes et de commencer à travailler sur ces questions. Et ça commence. Donc, on sait depuis très longtemps que quand les testicules montent très légèrement en température, d'un ou deux degrés, et passent de 35 à 37, 38 degrés, tout d'un coup, la production de spermatozoïdes se bloque. Ça fait longtemps qu'on sait ça. Et dans les années 70, ils vont travailler donc sur des projets de slip chauffant qui, au début, sont donc dotés d'une résistance pour chauffer les testicules. Ce slip va d'ailleurs être testé sur des animaux.
Sur un bélier.
Sur des béliers. Ouais. Et c'est probant, ça fonctionne, si ce n'est que, évidemment, cette résistance n'est pas pratique. Donc, ça va être amélioré. En fait, le plus simple, c'est juste de trouver un dispositif avec ce slip ou avec un anneau qui permet donc concrètement de remonter légèrement les testicules dans le corps. Et le fait de les remonter va augmenter la température d'un ou deux degrés et bloquer la production de spermatozoïdes.
Enfin, la logique voudrait qu'on ait une pilule pour homme comme il y a une pilule pour femme. Vous avez ressorti une vidéo où dans les années 80, déjà une gynécologue disait qu'on pourrait y parvenir à trouver cette pilule dans un délai raisonnable. Les années 80, on est en 2021.
Alors, c'est le tout début de notre enquête. C'est vraiment le moment où on s'est dit il faut se lancer là-dedans. C'est qu'on a retrouvé des extraits de vidéos ou de presse écrite qui nous annonce la pilule masculine pour demain, mais vraiment littéralement pour demain, dans le texte, depuis les années 70, les années 80, encore dans les années 2000, encore sur Slate dans les années 2010. Et pour l'instant, il n'y a rien.
Donc, pas de volonté politique. On parlait tout à l'heure des laboratoires pharmaceutiques. Et là aussi, une de vos interlocutrices que vous citez dans votre BD vous dit « Il n'y a pas d'obstacle scientifique à la pilule pour homme. Le jour où l'industrie pharmaceutique s'y mettra, on l'aura. » Alors pourquoi elle ne le fait pas ?
Elle ne le fait pas parce qu'elle pense qu'il n'y a pas de marché, c'est-à-dire que le marché des femmes et de la pilule pour femmes fonctionne très bien, même si on commence à voir que les femmes utilisent de moins en moins la pilule. Il n'y a aucune demande des hommes de se contracepter, ou en tout cas elle est trop limitée, donc ils ne voient pas de marché. Développer un contraceptif pour hommes, ça coûte cher, ça coûte très cher parce qu'il faut des études très larges qui touchent beaucoup de monde. Et pour l'instant, ils ne voient aucune raison de se lancer là-dedans.
Alors reste la volonté politique, parce qu'on pourrait imaginer qu'il y a une impulsion qui vienne du haut. Vous avez rencontré, avec quelques difficultés, hein, vous ironisez là-dessus dans la BD d'ailleurs, Marlène Schiappa, et elle vous dit, enfin elle disait en 2017, je veillerai à ce que la contraception masculine se développe davantage. Et puis lorsque vous la rencontrez, le sentiment que ça donne quand on vous lit, c'est qu'elle dégage en touche. En gros, Agnès Buzyn n'en voulait pas, donc moi je pouvais rien faire.
Oui, nous on était très surpris de retrouver cette interview dans Elle, où elle dit que la contraception masculine sera une de ses priorités en tant que secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, parce qu'après il ne s'est plus rien passé, et elle n'a jamais pris la parole là-dessus. On lui a demandé pourquoi, et elle nous a dit que sa priorité avait été de lutter contre les violences faites aux femmes, les féminicides, les agressions, et que le sujet de la contraception masculine, c'était trop tôt pour le porter.
Alors un dernier mot sur ce qu'on appelle la vasectomie, parce que ça existe aussi. Le problème de la vasectomie, c'est que c'est définitif, c'est-à-dire vous devenez stérile hein, quand vous faites une vasectomie.
Alors c'est définitif en France, parce qu'on n'en pratique pas beaucoup des vasectomies, donc on pratique encore beaucoup moins de tentatives de retour sur la vasectomie. Par contre, aux États-Unis, où cette opération est très courante, il est très courant que des hommes reviennent dessus, et ça fonctionne dans...
Reviennent dessus, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'ils fassent une opération pour à nouveau pouvoir procréer.
Et ça marche.
C'est ce qu'on appelle une vasovasostomie. Et ça fonctionne aux États-Unis dans 70% des cas, à peu près. En France, uniquement dans 30% ouais. des cas. Donc ouais. on estime qu'elle est réversible aux États-Unis et pas en France.
Oui, ce qui est quand même étonnant, parce ouais. que les gens sont pas fondamentalement différents, enfin, je veux dire ouais. physiquement, physiologiquement. Bien, sujet à suivre, il y a encore du boulot, comme on dit souvent. Merci Stéphane Jourdain.
Merci.
Alors je précise donc que votre BD s'intitule « Les contraceptés », mais il y a aussi derrière « Enquête sur le dernier tabou », c'est le titre complet. Et j'ajoute qu'elle est éditée chez Steinkiss. « Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Mélissa Fouss et réalisée par Christophe Imbert. C'est Jean-Baptiste Audibert qui a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Adèle Caglar et Rémi Sistiaga. Je vous souhaite un excellent week-end.